Donc, notre paracha, messieurs, parachat Roukat. D'accord, juste une petite introduction dans parachat Roukat. La parachat Roukat, donc, elle porte un nom très particulier. En général, chaque paracha, elle correspond... Enfin, le nom de la paracha correspond avec un peu le sujet de la... Avec le sujet de la paracha, Shlach Lecha, on va pour toi, les explorateurs, Balak, etc., etc. D'accord, Korar... Maintenant, Parashat Roukat, elle emploie son nom, il est un petit peu, il est bizarre. Quel rapport entre le mot Roukat et le mot et l'histoire de la Parashat Adouma? Alors, en réalité, nous dit que Chazal, c'est quoi Roukat? C'est quoi un roc? C'est un décret en français. J'ai vu traduit ici par le mot. Je me rappelle plus quel mot ils ont traduit. Un décret immuable, un statut invariable. Mais bon, c'est pas tellement, ça me paraît pas tellement joli. Un roc, c'est une loi comme ça, c'est. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pourquoi ? Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça. D'accord ? Et par excellence, la mitzvah de Parashat Adouma, de la vache rousse, c'est une mitzvah qui semble être une mitzvah incompréhensible, on ne la comprend pas. Hachem, il a fixé des règles et elles sont comme ça et c'est tout. Elles sont immuables, invariables. C'est sur cette paracha. Enfin, sur ce sujet-là de paracha de la Parashat Adouma, où là-bas, il y a beaucoup de Chazal qui expliquent, il y a plein d'histoires, qu'il y a plein de Rachamim, que les études de la Torah, quand ils sont arrivés à cette paracha-là, alors ils n'ont pas compris. Bon, ce n'est pas notre propos. Juste pour introduire rapidement, c'est quoi l'histoire de la Parashat Adouma ? Parashat Adouma, c'est lorsqu'un homme s'est impurifié de l'impureté de mort, pas n'importe quelle impureté, l'impureté de mort. Alors, il ne pouvait plus manger des choses saintes, pour manger de Korban, il ne pouvait plus entrer au Beth Amikdash, etc. Il y a plein de choses qu'il ne pouvait pas faire, il était limité par son impureté. Donc il devait se purifier. Maintenant, l'impureté de mort, c'est la pureté la plus difficile à enlever. Comment est-ce qu'on faisait ? Alors, Hachem, il nous dit comme ça, vous allez prendre une vache rousse, vous allez la brûler, vous allez récupérer ses cendres. Ensuite, lorsqu'il y aura une personne qui sera... Donc là-bas, la Torah, elle va nous expliquer tout le processus, comment on arrive justement à obtenir les cendres de la vache rousse. Après quoi, lorsqu'un homme sera impur, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre un petit peu, vous allez, donc la personne elle va se rendre chez le Kohen, elle va dire voilà, je suis impur. Il va prendre un petit peu de la cendre de la vache rousse, va la mettre dans de l'eau vive, Maim Chaim, et elle va l'asperger le troisième et le septième jour sur cette personne-là. Et au bout de sept jours, donc la personne va devenir pure. Jusque-là, tout va bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre ? Alors, c'est quoi ici la difficulté qu'il y a à comprendre dans cette paracha ? C'est que du pur. De l'impur va sortir le pur. C'est quoi l'impur va sortir le pur ? On va voir que l'impur ici, c'est là, apparemment, comme ça on comprendrait, ce sont les cendres de la vache rousse. Tout celui qui va avoir, il va toucher les cendres de la vache rousse, il va avoir un lien avec les cendres de la vache rousse, va devenir impur. Et donc, qu'est-ce qu'il devra faire à chaque fois ? On verra celui qui a récupéré les cendres de la vache rousse va devenir impur jusqu'au soir. Le Kohen lui-même qui va asperger les gens qui étaient impurs va aussi lui devenir impur. Voilà, tout celui qui a touché cette cendre vache rousse va devenir impur. Donc on voit que cette pureté, elle vient de quelque chose qui est apparemment impur. Comme ça, on pourrait comprendre. Il y en a qui comprennent autrement, mais je ne rentre pas dans tous les détails. Sinon, il y a une façon de comprendre où est-ce que c'est quoi la difficulté. En tout cas, il y a comme ça qui explique que de l'impur sort le pur. Donc apparemment, c'était ça qui était difficile à comprendre. Dans Parashat Roukat, c'est certainement plus profond que ça, mais on va pas faire des introductions trop longues, après on va pas s'en sortir. Maintenant, il y a un midrash très intéressant. Alors, ne me demandez pas le lien absolu qu'il y a entre la vache rousse et ce midrash-là. Le lien, vous allez un petit peu le ressentir, mais bon, on va pas trop essayer de comprendre c'est quoi le lien absolu. Chazal, des fois, ils trouvent des liens, enfin, c'est pas qu'ils trouvent des liens, ils ont reçu un lien, ils savent que cette notion de Torah, elle appartient à tel ou tel paracha. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le midrash ? Itab et Midrash, Zot Roukat. Zot Roukat, donc, Chazal nous dit dans Midrash Rabbah 19.1, Mi iten taor betame lo echad. Qui c'est qui va donner le pur de l'impur ? Qui c'est qui est capable de faire une chose pareille, de donner le pur de l'impur ? Kegon, comme par exemple Avram Miterach. D'accord, Avram, c'est un homme pur. D'où est-ce qu'il est sorti ? De qui il est sorti ? De Terar, qui était un homme impur, un idolâtre. Reskiaou Miachaz. Reskia, c'était un roi, un grand roi, très très sadique. De qui il est sorti ? De son père, qui était un grand grand idolâtre, Achaz. D'accord, on voit aussi que Mordechai, de qui il est sorti ? Mordechai Hatzadik, à l'époque de Purim. Qui était son descendant ? C'était Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, c'était un rachat. C'est lui qui avait insulté David Ameler lorsque David était parti en exil, quand son fils Avshalom s'est révolté contre David, donc David a dû fuir son palais, et sur le passage il va rencontrer un homme qui s'appelle Shimon ben Gera, qui était un de ses maîtres, et Shimon ben Gera il va l'insulter des insultes terribles. En tout cas, de cet homme-là, de ce rachat-là, va sortir un grand personnage qui s'appelle Mordechai. D'accord ? Israël, Miovde Kochavim aussi, on voit que sauf Israël, d'où est-ce que Israël, il va venir ? Il va venir des nations du monde, il y a les nations du monde, et de là est sorti le peuple d'Israël. Et la dernière chose, Olam Haba, Mi Olam Hazeh. D'où est-ce que le Olam Haba, il va sortir ? D'où est-ce qu'on va sortir ce Olam Haba ? D'où est-ce qu'on va mériter le Olam Haba ? D'où ? Olam Hazeh ! Olam Hazeh, c'est un monde qui est extrêmement impur, qui a plein d'impuretés dans ce monde, il y a plein de choses pas très bien dans ce monde, mais c'est de ce monde-là que va sortir la pureté, le Olam Haba. Alors demande de Midrash, mi Asaken, mi Tzivaken, mi Gazaken, qui c'est qui a fait ainsi, qui c'est qui a ordonné ainsi, qui c'est qui a décrété ainsi ? Ken, lo yahido shel Olam, n'est-il pas que c'est l'unique du monde ? C'est qui l'unique du monde ? C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de quelque chose d'impur sortir quelque chose de pur. Je vous fais une parenthèse. Pourquoi on dit il n'y a que Akadosh Baruch Hu ? Nous, on n'est pas capable de faire ça. Non, c'est qu'on n'est pas capable de faire ça. Il faut savoir qu'il y a un klal. Le pur n'a pas la possibilité de rendre l'impur pur. Mais l'impur, il a la possibilité de rendre le pur impur. Vous avez compris ? Plus lentement. Lorsque l'impur et le pur se confrontent l'un avec l'autre, qui c'est qui le remporte ?
L'impur.
Forcément. Bon, d'accord, on aurait pu croire, non, que le pur, il est tellement pur, il va réussir à purifier l'impur. Non, dans ce monde-ci, l'impur, il est au-dessus du pur. Donc, de dire maintenant ici que Akadosh Baruch Hu, de l'impur, il va sortir le pur, ah, c'est étonnant. Il n'y a que Hachem qui peut faire une chose pareille. D'accord ? En tout cas, comme ça, le Midrash, il nous dit... Et d'accord. Bon, quel rapport avec donc c'est quoi le sujet qu'on veut développer ? Il y a un passouk qui nous dit Or zaru ala tzadik ou les sherelev simcha. Alors, juste pas rentrer dans tout le verset. Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire le verset ? D'abord, Or zaru ala tzadik. La lumière, il a zarua. C'est le mot important qu'on a besoin de retenir. Zarua, c'est quoi zarua ? Il a, on va traduire par ensemencé. Mis en semence, mettre la graine. Zarwa. Zarwa, c'est un langage agricole qui dit qu'on met une graine dans la terre. Zarwa. Donc, or zarwa la tzadik, ou l'ishelere simcha. Et celui qui est. Donc, pour le tzadik, il a planté de la lumière. Ou l'ishelere. Et pour les gens qui ont un cœur droit, la simcha, la joie. La deuxième partie du pasouk demande d'être expliquée, mais ce n'est pas nos propos maintenant. Juste concentrons-nous sur un petit mot, le mot zarwa. Ça veut dire quoi ? Or zaru ala tzadik. On comprend que Hachem, il a de la lumière qui s'appelle Or. Ouais, vous savez que le monde a été créé en 6 jours. Vous savez. Ouais, en 6 jours. Qu'est-ce que Hachem a créé le premier jour ? La lumière. Et on voit que je ne me rappelle plus, je suis désolé. Quel jour on a créé le soleil ? Le quatrième, deuxième, quatrième ? Quatrième. Alors la question qu'on pose, je comprends pas. Si Hachem, il a créé la lumière. Le premier jour, alors comment est-ce qu'il a créé le soleil le quatrième jour ? Oui, d'où est-ce qu'elle vient la lumière ? Elle vient du soleil. Alors normalement, il aurait d'abord créé le soleil, après la lumière. Oui ? Non, de là on apprend que la lumière, qu'on parle dans le verset, lorsque Akash Borku a créé la lumière, il a dit que la lumière soit, on ne parle pas de la lumière qu'on voit, la lumière du soleil, on parle d'une autre lumière. Une lumière qui était bonne. C'est une lumière, et cette lumière-là, elle était tellement bonne que Hachem, il n'a pas voulu donner à n'importe qui. Il l'a cachée pour les tzadikim, la ratit de l'avo. Il l'a cachée pour les tzadikim, la ratit de l'avo. Et entre autres, pour qui il les a cassés ? Pour les tzadikim. Il y a certains tzadikim qui ont eu le mérite de voir cette lumière. Il y a marqué que Adam Arishon, il réussissait à voir d'un bout à l'autre du monde. D'accord ? Il avait une vision, il voyait jusqu'à 500 km devant lui. Ah, comment il faisait ? Il avait mérité d'avoir un petit peu de cette lumière-là. Cette lumière-là, ça lui permettait de voir des choses profondes. Donc c'est une lumière spirituelle qui est gardée quelque part. Maintenant, cette lumière-là, c'est quoi en réalité ? C'est le salaire des tzadikim. D'accord ? Bezrat Hashem, après 120 ans, si on a fait plein de mitzvot des tzadikim, on recevra cette lumière. Maintenant, cette lumière, qu'est-ce qui a marqué ? Il n'y a pas marqué que cette lumière, Hashem, il a donné au tzadikim ou il a hérité au tzadikim. Qu'est-ce qui a marqué ? Or zarou à la tzadik, c'est un langage de ensemencer. Il a mis en semence. Il a mis en semence cette lumière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mis en semence cette lumière? Vous comprenez la question?
Oui.
D'accord.
Il faut récolter.
Alors, ce qui parle de ensemencer parle de récolter. D'accord. Donc ici, le Rav Hartfogel, il explique que pourquoi est-ce que Chazal, ici, ils ont utilisé un langage, pourquoi la Torah, elle a utilisé un langage de Zria, dit parce qu'en réalité, un homme, toutes les mitzvot qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait quand il fait une mitzvah? Il met une graine, il ensemence. On va dire dans la terre, parce que c'est pas dans la terre qu'il met, mais il ensemence quelque chose. Et Bezrat Hashem, après 120 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir récolter. Vous comprenez? Donc, la lumière, cette lumière-là que Hachem, il nous a promis, on va venir un jour la récolter. Mais à condition de quoi? À condition que dans ce monde-ci, on va mettre les graines. Donc, c'est ce que veut dire ici le Midrash. Lorsque le Midrash, il nous dit que de l'impur va sortir le pur. Du Olam Hazé va sortir le Olam Haba. C'est vrai, il va sortir de l'Olam Haba. Si dans ce monde-ci, tu t'efforces à mettre cette graine-là qui s'appelle, enfin, ces graines-là qui s'appellent la Torah et les mitzvot, alors plus tard, tu récupéreras toutes les mitzvot, tu vas les récupérer, tu récupéreras comme des fruits. Ben alors, vous allez me dire, bon, pourquoi on a besoin de ce langage-là? Chazal nous disent dans Maseret Shabbat, je crois, je ne me rappelle plus, il y a marqué comme ça, que on parle là-bas du Olam Haba. On dit que seulement celui qui a peiné le vendredi mangera le samedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a pris la peine de faire des courses le vendredi, de préparer le poisson, de préparer la viande, de préparer les salles, etc., etc., alors viendra à Shabbat, il aura de quoi manger. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il aura droit de manger? Il aura de quoi manger le jour du Shabbat? Est-ce que c'est un salaire que je reçois? J'ai travaillé le vendredi pour préparer mon plat, et mon salaire, c'est le manger que je reçois? C'est un salaire? Ben non, c'est pas un salaire. Oui, vous comprenez que c'est un salaire? C'est pas un salaire, c'est le fruit de tes efforts. C'est pas parce que j'ai travaillé vendredi à travailler, alors oh là là, maintenant du ciel, je reçois un plat tout prêt. Pas du tout. C'est les efforts que tu as fait pendant le vendredi, ce sera le résultat, ce sera le fruit. Ça, c'est t'as ensemencé, et là, tu récoltes les fruits. D'accord? Maintenant, ce langage-là de ensemencer, il demande à être expliqué. Pourquoi est-ce que la Torah, elle s'exprime de cette façon-là? Pourquoi elle parle de ensemencer? Alors, on va ramener plusieurs preuves pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire et la mashmaout, la portée de cet enseignement-là. La première chose, un midrash qui nous raconte comme ça. C'est pas un midrash, c'est un pasouk. Je vais pas le chercher parce que je vais mettre 2 heures à le trouver. Mais il y a marqué, vous rappelez, lorsque Yaakov va partir de la maison maternelle et paternelle, il va partir. Pourquoi il va partir? Parce qu'il a, on va dire, il craint que son frère lui en veut de lui avoir pris de droit son droit d'aînesse. Donc Yaakov va fuir. Qu'est-ce qui va se passer? Esav va apprendre que Yaakov a fui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son fils Eliphaz. Il va dire, va l'attraper et tue-le. Et donc Eliphaz, il a couru à la poursuite de Yaakov. Il va l'attraper. Et Yaakov, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je dois te tuer. Il dit, quoi, je dois te tuer, moi? Ça, ils sont tués. Il dit, ouais, Kibouda Vahem, mon père, il m'a dit de te tuer. Je dois respecter l'honneur de mon père. Je dois te tuer. C'est l'ordre de mon père. Il dit, mais c'est péché de tuer. Ah ouais, mince, c'est embêtant. Bah, il y a aussi, il y a Kibouda Vahem et il y a l'autre tiers, comment je fais? D'un côté, mon père, il m'ordonne de tuer, et d'un côté, c'est interdit de tuer. Comment je fais? Je suis embêté, moi, Eliphaz. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Il dit, j'ai une solution pour toi. C'est ce que tu vas faire. Tu vas me prendre tous mes biens. Et un Inirchef Kemet. Et un pauvre, c'est comme un mort. Et donc là, c'est comme si tu m'avais tué. Ah, super, très très bien. Donc, Yaakov va lui donner tout ce qu'il avait. Donc, il devait recevoir, il a sûrement reçu un sandwich de sa mère. Il a sûrement reçu plein de choses de sa mère, de son père, avant de partir. Il a dû sûrement recevoir aussi des bijoux pour pouvoir marier une femme, parce qu'à l'époque, il fallait montrer qu'on était quelqu'un d'important. Et donc, il va, à ce moment-là, il va tout perdre. Et là, Yaakov va se retrouver, rien du tout. Il va dormir la même nuit, il va faire un rêve, il va voir une échelle, vous connaissez toute l'histoire, etc., etc. Le matin, Yaakov va se réveiller. Et qu'est-ce qu'il va faire? Nous dit le Passouk. Vayadar Yaakov Neder. Yaakov, il va faire un Neder. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire comme Neder? Imi Elokim, il m'a dit, si Hachem il est avec moi et qu'il me donne du pain et du pain à manger, des habits pour m'habiller. Alors, c'est quoi la suite du Neder? Je ne m'en rappelle plus. Il va construire, je construirai ici à cet endroit-là. C'est ça? Ouais, il va construire à cet endroit-là une Beit Elokim. Beit Elokim, il va construire une maison pour Hachem où il va voir ce qu'il va faire. C'est dans Vayetse. Vayetse Yaakov. D'où est-ce qu'on apprend qu'on doit mettre une kippa sur la tête, vous savez, messieurs? On apprend ça de Vayetse Yaakov. Il est marqué que Yaakov il est sorti. Est-ce que vous croyez que Yaakov il va sortir sans kippa? Non, c'est une blague pour gagner du temps. Donc. Voilà. Vaya halom veine soula mutsa barza, etc. Veine Hashem nitsa, vaya. Attendez, je vais. Vaya kat Yaakov. Vashkem Yaakov aboker, vaikar et a even. Il a pris donc la pierre, etc. Vaikra et Hashem amakom. Vaya der Yaakov neder les morts. Imi Elokim m'a dit, si Hashem il est avec moi, ou shmarni baderer, il va me garder dans le chemin. Azé Hashem anochi oler. Benatan li lechem lechol. Du pain à manger, velechem. Lechol ou beged lichbosh. Et des habits pour me vêtir. Veshavti beshalom el beit avi, et je reviens beshalom be beit avi. Vayashem ilokim vaeven azot, donc cette pierre là, shasamti matseva, cette pierre là que j'ai fait en matseva, elle sera la maison de Hachem. On verra que Yaakov lui-même ne va pas accomplir le neder qu'il va faire. C'est plus tard ses enfants qui accompliront le neder. En tout cas, on voit que ici Yaakov, il a fait un neder. Chazal de ce passage-là nous apprend que lorsque un homme il est dans le tsar, un homme il est dans la peine, il est embêté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un neder. Il doit dire Hachem, si tu m'aides à m'en sortir, alors je fais le neder de comme ci et comme ça. D'accord? On raconte que le stapler, très souvent stapler, on le surprenait à faire Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, parce que là-bas c'est une louange extraordinaire à Hachem, on remercie Hachem de toutes les bontés qu'il a fait. Et très souvent, on le surprenait à dire Nishmat Kol Chai. Pourquoi? Parce qu'il raconte que quand il était, entre guillemets, avec mes mots à moi, dans la galère, la première Hachem, que si Hachem l'aidait dans cette galère-là, alors il dirait Nishmat Kol Chai. Il ferait un éder, il a fait le éder de dire Nishmat Kol Chai. Donc très souvent, il faisait Nishmat Kol Chai parce que, oh, Hachem, il aidait, il sortait souvent de ses galères. En tout cas, Chazal, ils disent que lorsqu'un homme, donc, il est dans le tsar, dans la peine, il doit faire un éder. Pourquoi faire un éder? Pourquoi Chazal ne dit pas que quand un homme, il est dans la peine, alors qu'il donne Hatzdaka, c'est sûrement bien Hatzdaka, ou qu'il fasse une mitzvah, qu'il mette les tefilines, qu'il étudie le Torah, non, qu'il fasse un neder. Pourquoi? C'est quoi le Inyan? En réalité, ça rejoint l'idée. C'est qu'un neder, c'est quoi? C'est quelque chose que je n'ai pas fait encore, mais que je m'engage à faire. D'accord? C'est, je vais commencer à mettre dans mon cœur une petite graine. D'accord? Mettre une petite graine. Cette volonté-là, c'est une graine. Et à partir du moment où on a mis la graine, alors c'est comme si que déjà les fruits étaient déjà apparus. Et donc, de la même façon, lorsqu'un homme, il est betsahar, un homme, il est dans la souffrance, il est dans la peine, qu'est-ce qu'on lui dit? Enlève la souffrance, enlève la kpeda, comment on dit la kpeda en français? La rigueur que Hachem, il est sur toi. Arrange-toi. Il dit, mais je ne peux pas m'arranger maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, commence au moins. Commence à planter cette graine de t'en sortir. Donc le fait de faire un neder, c'est ça qui va commencer maintenant à m'apporter ces fruits-là, les mitzvot que je ferai, ou les conséquences de ce neder-là. Et c'est grâce à ça que je vais réussir à m'en sortir. Donc lorsqu'un homme il est dans la peine, le conseil que Chazal nous dit ici, qu'il fasse un neder, qu'il prenne sur lui. Il y avait un bachour chez nous à la yeshiva, il y a très longtemps, on l'a écrit dans un des livres, je ne dis pas qui c'est. Et ben, il a eu des problèmes avec la police, avec la justice. D'accord? C'était quelqu'un qui était très loin de la Torah. Il connaissait rien du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment rien. Il a grandi dans une cité. Vraiment, il aurait pu finir un bon pilier de cité. Et un jour, il a eu un gros problème avec la police. Et son frère, qui était religieux, il a dit, prends sur toi que si tu t'en sors, alors tu pars à la yeshiva. Et bien, il ne sait pas ce qu'est la yeshiva dans lui. Il dit, yeshiva. Il dit, non, je prends sur moi, Hachem, si tu m'aides, je prends sur moi d'aller à la yeshiva. Et bien, Baruch Hachem, il s'en est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la yeshiva. Et je peux vous dire, de tous les bachourim qu'on a eu à la yeshiva, c'est certainement un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur des bachours. Il étudiait par jour, 17 heures par jour, il ne rentrait plus dans les chambres, il dormait sur les bancs à la yeshiva. Quand il est arrivé, je me rappelle, il faisait le birkat Amazon. Et la amida, elle a duré 50 minutes. Tu te rappelles ? Ça a duré 50 minutes. Quand il finissait, il arrivait, il n'y avait déjà plus rien à manger, il avait qu'un petit morceau de pain. Il mangeait le pain. Le birkat Amazon, c'était 40 minutes. Et il s'est vraiment, il s'est donné. Il comprenait rien à l'étude. Une fois, il est tombé avec un bachour. Le bachour, il a dit, bon, je vais t'aider, moi. Il a dit, vois la première Mishnah de Souka, tu vas l'apprendre par cœur. Il a commencé à apprendre pendant une semaine, deux semaines, la première Mishnah de Souka. Il ne comprenait rien, il a pris par cœur. Après, il dit, ça, je la connais par cœur. Il dit, bon, maintenant, je vais t'expliquer. Il a commencé à expliquer mot à mot, ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est un Tabit Raham, le garçon, Bi'ainara. En tout cas, qu'est-ce qu'il a mis en faisant le Neder? Il a mis une graine. Et cette graine-là, elle a germé dans son cœur et les fruits sont sortis. Et lui, Baruch HaShem, non seulement lui, Tabit Raham, il a envoyé ses enfants dans le Talmud et Torah. Baruch HaShem, une famille de Tiferet. En tout cas, on voit le lien de mettre cette graine-là, elle peut porter des fruits. Rapportons d'autres exemples par rapport à cette graine. D'où est-ce qu'on voit ça encore? D'où est-ce qu'il y a encore d'autres histoires? On raconte sur Shmuel, on a Aramot, donc il y a là-bas le Kever, le tombeau de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est le fils de qui? Vous connaissez tous l'histoire, je ne fais que répéter. Hanna. C'était qui Hanna? C'était la femme d'un grand prophète, d'un grand personnage qui s'appelait Elkana. Elkana, lui, il avait deux femmes, Pnina et Hanna. Pnina, elle avait des enfants, Hanna n'avait pas d'enfants. Maintenant, bon, tout se passait bien pour Hanna, c'était une sadéquette, elle faisait plein de choses, très très bien. Mais Pnina, ça l'a dérangé de voir Hanna sans enfant. Donc elle a commencé à la titiller. Elle dit, tu vas pas chercher tes enfants à l'école? Ah, excuse-moi, t'as pas d'enfant toi. Ou tu veux, je te prépare un biberon pour ton fils? Ah, excuse-moi, t'as pas d'enfant toi. Et elle a commencé à la titiller. Et qu'est-ce qui va se passer? Hanna va avoir beaucoup de peine de ça, de pas avoir d'enfant. Et elle va prier, jusqu'à que Hachem va lui donner un enfant. Ce petit enfant, comment il va s'appeler? Shmuel. D'accord? Le prophète, qui sera plus tard le prophète Shmuel. Et elle va promettre à Hanna que lorsqu'il aura 3 ans, lorsqu'il sera sevré, alors elle le consacrerait à Hachem. Et quand il a eu 3 ans, elle l'a emmené au Mishkan là-bas, chez Eli Kohen Gadol, le prophète, le Kohen Gadol qui était Eli. Elle a dit, voilà mon fils, maintenant il va te servir. C'est lui qui va servir dans le Beth Amikdash. Et un jour, Shmuel va faire une certaine erreur. Vous savez ce qu'il a qu'il a fait? En deux mots, il y a des gens qui sont venus pour amener un sacrifice. Il n'y avait pas de Kohen pour faire la shrita du sacrifice. Vient le petit Shmuel et dit, attends, non, la shrita, c'est pas besoin que ce soit un Kohen qui l'a fait. Même un Israël, il peut faire la shrita. Mais le problème, c'est lorsqu'il a annoncé, il a dit cette halakha-là, il a dit devant son maître qui était Eli. Et donc, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit, c'est assourd d'enseigner une halakha devant son maître. Et à cause de ça, Eli va, entre guillemets, le maudire et va dire que cet enfant, il doit mourir. Pourquoi? Il a enseigné halakha devant son maître. Et la Hanna, elle va venir et elle va prier. Non, je t'en supplie, enlève ton ta kpeda. Comment on dit kpeda? Ta. Ouais. Bon, vous avez compris. Enlève ta kpeda de mon fils. Et il dit, mais t'inquiète pas. Rancune? Ouais, non, c'est pas rancune. Rancune, c'est très moche, non. En tout cas, enlève ta kpeda de mon fils, je t'en supplie. Et Eli va lui dire, mais ça va, t'inquiète pas. Je prierai pour que t'en aies un autre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Hanna dit non. C'est sur cet enfant-là que j'ai prié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, cet enfant-là, Shmuel, c'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant que j'ai eu par mes larmes, par mes pleurs. Pendant des années, j'ai arrosé avec mes larmes une graine. Et cette graine-là l'a donné Shmuel. Et ça, je ne veux pas le père. Ça, c'est un enfant qui vaut de l'or. C'est un autre enfant. C'est un enfant qui n'est pas né maintenant. Il est né depuis déjà des années dans mon cœur. Et c'est mes larmes qui ont fait qu'il a grandi. Je vous raconte une autre histoire. Vous connaissez tous, on a toujours parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui?
Non.
Non? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un grand Tana. Qui était son père, Rabbi Shimon Bar Yochai?
Yochai.
Vous connaissez l'histoire de Yochai? Non? Vous ne connaissez pas l'histoire de Yochai? Je ne me rappelle plus vraiment des détails, donc ne m'en voulez pas. Je vous la raconte à peu près. Mais le fond, il est comme ça. Yochai et sa femme n'avaient pas d'enfants. Pendant des années, ils n'avaient pas d'enfants. Et arrive un moment où Yochai, il veut divorcer. On peut pas vivre comme ça. Il faut qu'on ait des enfants. Alors chacun, il va aller de son côté. Et ce Yochai, il est parti un jour donc se coucher. Et il va voir en rêve un verger magnifique. Un verger magnifique. Et au milieu du verger, un arbre sec. Tu la connais?
Ouais.
Un arbre tout sec. Et il voit qu'il y a un homme qui s'approche de cet arbre sec, tout sec, et commence à l'arroser avec de l'eau comme ça. Et cet arbre, il commence à donner des fruits extraordinaires. Il commence à fleurir extraordinairement. Bon. Le matin, il se réveille, il va voir un tana, je ne me rappelle plus qui c'est qu'il est parti voir. Il y a marqué dans l'histoire aussi qu'il est parti voir. Il lui a dit, j'ai rêvé de ça et ça, c'est quoi que ça veut dire? Il lui a dit, l'arbre sec, c'est toi Yochai. T'as pas donné de fruits, t'as pas eu d'enfant. Et celui qui est venu arroser, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est venu arroser. Et de cet arbre-là, donc de toi, va sortir beaucoup de fruits. Va sortir un grand, grand sadique qui va donner des fruits à tout Israël. Des fruits spirituels. Ah, magnifique. Et c'est qui, c'est quoi l'eau qu'il a, il arrose? L'eau, ce sont les larmes de ta femme. La femme de la mère donc de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pleuré. Et toutes ces larmes, quand je vois qu'il les a pris, il les a gardées. Et grâce à ça, il a arrosé, cette graine-là qu'il a plantée. Et c'est de ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti. Donc des larmes de sa mère. De là, on apprend que, plein de choses. Mais entre autres, que nous, ce qu'on doit faire dans ce monde, c'est qu'on doit planter des graines. Et ces graines-là, on doit les arroser. Comment est-ce qu'on plante des graines? Alors toutes les mitzvot qu'on fait en réalité, c'est des graines qu'on plante. Et tous les fruits de ces graines-là, on les récoltera, les ratis de l'avo. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les faire grandir? Lorsque quelqu'un il fait une mitzvah et qu'il s'applique à la faire de tout son cœur et qu'il s'applique à l'enseigner aux autres, qu'il a appris, etc. Alors cette mitzvah-là, elle va grandir et grandir jusqu'à donner des fruits. Plus que ça. Il y a marqué, ça on l'a déjà dit, je le répète, je l'ai dit au moins 15 fois ou 50 fois, Rabbi Chaim de Volozhin, il y a un verset dans Michelet, je crois, qui dit comme ça, Tzadik oler betumo ashre adam ashre banav acharav. Le tzadik marche dans son intégrité, donc le tzadik est intègre, ashre banav acharav, heureux ses enfants qui viennent après lui. Et donc Rabbi Chaim de Volozhin explique dans l'Ève Israël, là-bas, l'Ève Chaim, il explique que ça veut dire que pourquoi heureux les enfants qui vont après lui. C'est quoi cette histoire-là? Il dit que le tzaddik, pendant toute sa vie, il va travailler, donc ses midot, il va étudier la Torah. Et tous les traits de caractère, les bons traits, les bonnes vertus que l'homme va acquérir, le tzaddik va acquérir, il va les transmettre à ses enfants, dans les gènes. Oui. Et les enfants, ils vont recevoir ça dans leurs gènes. Et avec un tout petit peu de travail, ils vont aussi récupérer tout le travail de leur père. Si un homme, il était généreux durant sa vie, alors la générosité, elle passera facilement chez les enfants. Elle passera facilement et les enfants, très rapidement, ils pourront récupérer tous les fruits que le père a plantés. On raconte, il y avait le Geivet de Antwerpen, le Avbeddin de Anvers, qui s'appelait Rabbi Chaim Kriswart, que j'ai eu le soin d'un jour de voir. Grand Talmid Chacham, tu te rappelles aussi, on l'a vu. Et il est venu, et de quoi lui l'a raconté. Il a dit que tous les sujets que j'ai peiné moi dans la Torah pour les comprendre, c'était les sujets les plus clairs pour mes enfants. Tout ce que lui l'a peiné dans sa vie, c'est passé en héritage. Pour ses enfants, c'était des trucs très faciles. Pourquoi? Parce que moi, j'ai semé, j'ai arrosé, et c'est sorti chez mes enfants. Ouais. En tout cas, on voit de cet enseignement-là, le Rabbi Chaim de Volozhin, il apprend d'Avraham Avinu, d'accord? Pourquoi est-ce que le peuple juif veut retourner sur sa terre? Pourquoi le peuple juif veut retourner sur sa terre? Pourquoi d'autres peuples ne veulent pas retourner d'où ils viennent? Par exemple, vous prenez les... Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça sur Internet, mais bon, c'est pas rien de méchant. Pourquoi les Noirs américains ne veulent pas retourner en Afrique? Ils viennent d'Afrique, pourquoi ils ne veulent pas retourner en Afrique? Et pourquoi le juif, lui, oui, veut retourner en Israël? Quelle différence? C'est quoi la différence? Dit la différence, elle vient d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il y a eu une épreuve qui s'appelait l'Ech Lecha, va pour toi. Hachem, il a dit, laisse tout tomber, abandonne tout, toute ta grandeur, et pars en Eretz Israël, dans un pays qui n'avait rien à l'époque, c'était la famine, c'était un désert, il n'y avait rien du tout. Et Avraham Avinu, il s'est travaillé, et il a réussi, il est monté en Eretz Israël. Ce travail-là, cette graine-là qu'il a fait, l'amour d'Eretz Israël qu'il a ensemencé dans son cœur, elle a grandi, elle est venue dans ses enfants. C'est pour ça qu'il n'y a pas un juif qui a encore un petit peu le sentiment juif dans le monde, qui n'a pas la volonté profonde de vivre en Eretz Israël. Cette année, Baruch HaShem, en Israël, on attend beaucoup, beaucoup de juifs, je veux dire là. 5 000 ils attendent. 7 000, c'est monté. D'accord? D'où ça vient cet amour d'Eretz Israël? Ça vient d'Avraham Avinu. On voit que toutes les 10 épreuves qu'Avraham Avinu il a eues, ces 10 épreuves-là, elles sont passées en, dans les gènes chez nous. Et c'est grâce à ces graines-là que Abraham Avinu, il a planté, qu'on a toute cette force-là. Le juif, il a une force, il n'a pas peur de mourir pour la Torah. D'où il a appris ça? Il a appris d'Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, comment il s'appelait, Nimrod, il a dit: ou tu te prosternes devant l'idole, ou je te jette dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu? Jette-moi, j'ai pas peur. Cette force qu'il a eue, Abraham, de ne pas céder, il a transmis à ses enfants. Et on voit que tout au long des générations, le juif, il n'a jamais eu peur de rentrer ni dans une chambre à gaz, ni de monter sur un bûcher pour la Torah. D'accord? On voit au moment, à l'époque des croisades, où les croisés sont partis au nom de l'amour libérer donc Jérusalem. Et au passage, ils ont dit: ben, si on va au nom de l'amour, il y a quelques juifs ici, on va les massacrer aussi. Ils ont massacré des villages entiers. On n'a pas entendu une histoire où il y a un juif qui a dit: ok, j'accepte de convertir, ne me tuez pas. Là-bas, dans les pays, là-bas, Metz et tout ça, ils ont tous été prêts à mourir, des communautés entières, pour justement ne pas se convertir. D'où est-ce qu'ils ont eu cette force-là de Avraham Avinu, de cette graine-là que Avraham Avinu il a plantée? Maintenant, on voit que, donc c'est pas seulement dans notre descendance, j'amène encore d'autres exemples, je vais apporter encore d'autres exemples, si je peux me permettre, ne bougez pas, on trouve la petite feuille, c'était où? Qu'est-ce qu'on a comme exemple encore? Ah, on a un exemple intéressant. Les autres aussi sont intéressants. Il y a un autre exemple, on voit avec, dans la... C'est où, le parachat de la semaine dernière? Oui, avec... C'est quoi le parachat de la semaine dernière? Korar. On voit que Korar, lui, il est rentré en marloquette contre Moshe Rabbeinu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il voulait, Korar, lui? Qu'est-ce qu'il voulait être? Kohen Gadol. D'accord? Il a dit: non, c'est pas à Aaron d'être Kohen Gadol, c'est à moi d'être Kohen Gadol. Il veut être Kohen Gadol. Et comment va finir Korar? La terre va s'ouvrir et il va se faire engloutir. Miracle extraordinaire. La terre s'engloutit. Tous ceux qui avaient fauté, Dafka, eux, ils sont fait engloutir. Miracle extraordinaire. Seulement, après ça, on voit que le Ram Israël va se plaindre. Ouais, c'est pas normal, vous avez tué le peuple de Dieu. Comment c'est marqué dans le pasouk là-bas? Comment c'est marqué? Parachat, quoi, tu m'as dit? Parachat Korar. Comment c'est marqué à la fin? Excusez-moi, le pasouk, il est intéressant. Tous les psaumes sont intéressants. Je ne me rappelle plus. C'est où?
C'est marqué là-dedans.
Pas encore. Le prochain volume, peut-être. Bon, c'est pas grave, on ne peut pas perdre son temps. Bon, en tout cas, il va voir, ils vont se plaindre. Ouais, vous avez tué le peuple. Ah, voilà, c'est ici. Bravo, Hazak. Pas d'abord chez Moshe, d'abord Ben Israël, Vekar Meitam, Maté. Non, c'est juste avant, excusez-moi. Voilà. Pas d'abord El Moshe, les morts. Rémou Bitor Aïda Azod. Non, ça c'est. Vaïkar Aaron, excusez-moi. Vaïarmod. Bon, ouais, je vais trouver un passouk, c'est pas grave. En tout cas, on voit que le peuple va se plaindre. Il va se plaindre. Ouais, vous avez tué le peuple de Dieu. Ouais, c'est pas bien ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il va dire, Hachem? Ok, pas de problème. Tu dis à tous les nassis du peuple que chacun il emmène son bâton, qu'il le met dans le Mishkan. Le bâton, et sur le bâton de Lévi, tu vas marquer le nom de Aaron. Et vous allez voir. Et donc, chacun, il a mis son bâton. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous dit le verset? Vetchem Atevel Maté Lévi, Veaya Aïch Hacher. Et l'homme qui sera choisi, alors son bâton, il va fleurir. Et le matin, extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de qui a fleuri? Le bâton de... Où est-ce qu'il passe? Oh. Le bâton de Aaron. Va Yomer Hachem Moshe, Hachem et Maté Aaron, Lifnei Aedout. Bon, je ne vois plus passer où est-ce qu'il est. Mais pas grave, on trouvera les passouk. Et on voit que là, la colère nationale du peuple va se calmer. La question qu'on pose, il dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il est calmé la colère? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont plus de taranotes, ils ont plus d'arguments contre Moshe, contre Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelques petites fleurs sortir d'un bâton qui est mort. Aussi, non mais, pourquoi les autres ils sont calmés? Pourquoi les autres ils ont dit, ah, t'as raison, c'est vrai, c'est Aaron. Pourquoi c'est Aaron? Parce que t'as vu quelques fleurs sortir de quoi? Ils ont eu peur? Ah, ils n'ont pas eu peur quand la terre s'est écroulée?
Non, parce que...
Ça, ils n'ont pas peur, ça. Tu vois la terre engouffrir en goût? Engouffré de Korar, ça te fait pas peur? Ah, tu vois un bâton avec quelques fleurs? Ah, t'as raison. Oui ou non? Plus que ça, c'est un petit miracle. Un bâton qui donne des fleurs. Moi aussi, j'ai le pain. Shalom. Mais c'est pas un truc. Ils en ont vu des miracles. Ils en ont vu des miracles extraordinaires. Qu'est-ce que ce miracle-là, il a d'impressionnant? Donc en réalité, Balamoussar, il dit dans la Word for Girl, il dit que c'est pas. n'y a pas de miracle impressionnant ici. Ils n'ont pas été impressionnés du miracle. Waouh ! Ils ont compris un message que Hachem leur a transmis. Il dit, vous savez pourquoi est-ce que Aaron, c'est lui le Kohen Gadol ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi Aaron, il s'est fait comme ça ? C'était un monsieur qui arrivait et Hachem, il a dit, ouais, lui, il est bien, il a une belle barbe blanche, ça lui ira très très bien l'habit du Kohen Gadol. Comme ça, on a choisi Aaron. Aaron, lorsque Moshe Rabbeinu a quitté le... À quel âge Moshe Rabbeinu a quitté l'Égypte ?
80.
Pas du tout. Arrêtez. Le Ramban dit entre 13 et 17 ans. Entre 13 et 17 ans, Moshe Rabbeinu a quitté l'Égypte. À quel âge il est revenu ? 79-80. D'accord ? 79-80. Donc combien de temps il n'était pas en Égypte ? Vous faites la division, 63, entre 63 et 67 ans. Qui c'est qui était avec le Ram Israël pendant toutes ces années-là ? Qui c'est qui s'occupait des Juifs pendant ces années-là ? Non, Aaron, c'est Aaron qui a peiné. Lorsqu'il y avait des peines, il y avait des problèmes, c'était Aaron. Aaron, il a peiné. Et Aaron, il a tellement peiné pour le Ram Israël. Lorsque Hachem, il va dire à Moshe, va et libère mon peuple, Moshe, il ne va pas vouloir. Dis moi, ma piton, pourquoi moi ? Dis mon frère Aaron. Et Hachem, il dit non, vas-y toi. Et à la fin, il va accepter. Pourquoi ? Il va dire non, sache que Aaron, il est joyeux dans son cœur que c'est toi qui vas venir le sauver. Maintenant, comment est-ce que Aaron, il est joyeux dans son cœur ? Il dit Aaron, pendant toutes ces années, il a pensé au Ram Israël. Il ne pensait que du bien, il pensait que au bien de Ram Israël. Pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il a fait Aaron ? Il a arrosé sa petite graine. Il a planté des graines, il les a arrosées, il a travaillé. D'accord ? Et c'est par ce mérite-là qu'il est devenu Kohen Gadol. Et c'est ça. C'est pas un arbre sec, Aaron. C'est un arbre de fleurs. Aaron, tout ce qu'il a mérité, c'est par son travail. Et là, pour conclure, comprenez, t'as compris ? Ouais. D'accord. De là, on conclut. Et là, le Rav, il nous dit que tout le tsahar qu'on a lorsqu'on étudie, on vient à l'Yeshiva, on étudie, et c'est dur. D'accord, et c'est très dur, on a du mal, on comprend rien. La semaine dernière, il m'a pleuré, il comprend rien. Bon, un peu orgueilleux, le mec qui vient d'arriver, il veut tout comprendre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, toute la peine qu'on a, toute la peine qu'on se donne pour chaque mitzvah, il faut savoir que c'est une graine qu'on plante. Et cette graine-là, un jour, elle donnera des fruits. Et si moi, je suis venu à la yeshiva et je me suis tapé, j'ai essayé, j'ai pas réussi, sache que tous tes efforts, ils seront gardés. C'est pas pour toi, c'est pour tes enfants. Si aujourd'hui, nous, on a le mérite d'être à la yeshiva, c'est parce qu'une de nos grand-mères, elle en a pleuré. Elle a pleuré pour sa descendance. C'est par ce mérite-là qu'on est là, de la même façon nous. Tous les efforts qu'on fait, ces efforts-là, ils ne sont pas en vain. Ils sont gardés. On voit qu'il y a des gens pour eux, d'accord, de garder Shabbat, de manger kasher. C'est difficile, d'accord. Mais si, c'est difficile et ils font l'effort. C'est-à-dire que tous ces efforts-là, ce n'est pas des efforts qui sont perdus. C'est ces efforts-là qui vont leur donner le mérite de manger Olam Baba. Et pas seulement Olam Baba, dans ce monde-ci, d'avoir des enfants, d'avoir une descendance de Talmid Chamim, elle ne vient que de l'effort qu'on fait. Et c'est ça qu'a dit la Mishnah. La Mishnah, comme il dit Rabbi Chetrit, quand on lit cette Mishnah-là, on a envie de dire c'est plutôt le programme de travail de Auschwitz. Quand il y a marqué pas de bémelar tochal, du pain dans du sel tu mangeras, d'accord, ou maïm bébésora tichté, et tu bourras un petit peu d'eau comme ça, va à la rête sichan, et sur la terre tu dormiras, véchaïl sa'ar tirié, et une vie de souffrance tu vivras. D'accord, c'est où ça? C'est Jiva ça, c'est Auschwitz ça, c'est quoi ça? Oui, ou betorata amel. Alors il y en a qui expliquent, c'est malgré ça. Si malgré toutes les difficultés que tu as, ici elles sont exprimées qu'il n'y a rien à manger, ou il n'y a rien à boire, ou on dort par terre, c'est pas forcément ces difficultés-là, ça peut être d'autres difficultés. Je comprends rien, mon voisin il ronfle, j'ai pas d'argent, c'est un million de difficultés. Et malgré tout, Betora Taramel, alors là tu recevras le Sahar. La Zria que tu as plantée dans ce monde-ci, c'est elle qui te donnera dans ce monde-ci et dans le Olam Haba. Et c'est ce que veut dire Chazal ici. Que du roux, du tamé. C'est quoi du tamé ici? C'est de l'effort, de la difficulté, du négatif, d'accord, de la peine que j'ai. C'est de ça que va sortir le Tahor, c'est de ça que va sortir la peine. Les choses qu'on fait sans peine, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Quand on a fait quelque chose, on a travaillé pour ça, ça nous donne un salaire, non seulement Olam Haba, mais aussi pour nous, extraordinaire. Chachem Yébezrenou, Chazak Oubarou.